On a commencé cette épître, cette lettre de Paul aux chrétiens de Philippe la semaine dernière. On va juste passer à la première diapo. C'est un rappel. C'est un rappel donc, de là où ça se passe. Vous aviez ici la mer Méditerranée, ici à Israël, Jérusalem. Paul était en voyage missionnaire par ici. Il est allé revoir les églises de Derbe, Lystre, Icone, etc. Et puis, il cherchait où aller. Et chaque fois, le Seigneur l'empêchait d'aller dans une direction ou dans une autre. Et puis finalement, il a cette vision d'un Macédonien, donc quelqu'un de la Macédoine, qui est la province du nord de ce qu'on appelle la Grèce en ce moment. Le Macédonien qui lui dit, viens, secours-nous, viens à notre aide. Donc, il prend le bateau, il traverse jusque là-haut. Il arrive dans la ville de Philippe, et on a vu l'histoire de ce qui se passe là, la première conversion, donc la première personne qui s'est convertie en Europe, c'est une femme d'affaires, donc c'est intéressant, Lily. Ensuite, il y avait cette histoire d'argent, parce que la première persécution en Europe, c'est parce que les gens risquaient de perdre gros, donc les personnes qui avaient une servante qui faisait des prédictions sur l'avenir, si on veut. Donc voilà, c'est marrant en fait. Première convertie, une femme d'affaires. Première persécution autour de l'argent aussi. Et ensuite, donc, la prison, où un tremblement de terre pendant la nuit fait que Paul et Barnabas peuvent annoncer l'évangile au geôlier. Et puis finalement, on veut le relâcher le lendemain et Paul dit, pas question, il faut venir, il faut s'excuser parce qu'il voulait protéger cette nouvelle église pour montrer que la laïcité en Europe n'empêche pas l'annonce de l'évangile. Bon, vous comprenez, la laïcité n'existait pas à l'époque, mais il y avait même quand même cette idée qu'il y avait d'autres dieux, il y avait d'autres philosophies et le christianisme venait tout bouleverser et Paul voulait montrer dès le départ que ce que l'on fait est pour le bien de la société. Donc voilà la situation à Philippe. Et maintenant, Paul écrit cette lettre. Et je vais lire les 8 premiers versets. Parce qu'on a lu, en fait, je vais d'abord commencer avec Philippiens 1 et versets 1 et 2. Juste une petite révision de la semaine dernière. Donc une lettre. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. À tous les saints, donc tous les chrétiens en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que on a deux mots en grec qui ne peuvent pas se traduire finalement facilement en français, mais c'est les saints sont dans Jésus-Christ et dans Philippe. C'est le même mot. Donc, on a deux environnements. On est en Jésus-Christ, comme la traduction seconde le dit, et à Philippe ou à Paris. Voilà. On a deux environnements. Et ça, c'est la réalité que nous vivons. Et Michel a fait allusion à cela tout à l'heure, au début du culte. Et donc, nous sommes une colonie de Dieu dans notre contexte. Et j'ai rappelé la semaine dernière que dès la première mention de Philippe, on insiste pour dire que c'est une colonie. En fait, c'est une ville qui avait ce statut. C'était une ville où les anciens militaires avaient le droit de résider comme citoyens. Et donc, ils étaient fiers de ce statut d'être une colonie romaine en Grèce. Et nous aussi, selon chapitre 3 des Philippiens, on nous dit que nous sommes citoyens des cieux, mais aussi donc actuellement comme une colonie de ce royaume de Dieu sur la terre. Donc nous sommes une colonie de Dieu à Paris, comme les Philippiens étaient une colonie de Dieu à Philippe. Et donc, il faut se comporter comme citoyen de cette colonie. Et je vous ai proposé que le verset clé des Philippiens arrive au verset 27 du chapitre 1, que nous verrons par la suite, qui dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Donc, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et j'ai mentionné que dans la traduction du Semeur, on a ces mots « Mener une vie digne de l'évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume. » Et je dis, mais comment est-ce que la version du Semeur est arrivée à « citoyen du royaume » alors qu'a priori, dans le second, on ne mentionne même pas. Et la solution, c'est que le verbe, en fait, « conduisez-vous », c'est un verbe en grec qui inclut le mot « polis », P-O-L-I-S, qui veut dire « ville », d'où on a le mot « politique », pour dire « conduisez-vous publiquement, comme citoyen, si on veut, comme citoyen de cette colonie de Dieu sur la terre ». Donc voilà l'introduction. Maintenant, je vais lire les versets 3 à 8, donc il sera la suite de notre étude. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes chaînes, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Voilà. Six versets, avec beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'abord? J'avais signalé aussi la semaine dernière que cette lettre de Paul aux Philippiens démontre tout l'amour, toute l'affection que Paul avait pour ses chrétiens à Philippe. C'est peut-être le plus personnel de toutes ces lettres. Et ici, il y a au moins quatre fois où Paul revient sur cela dans ces quelques versets. D'abord, au verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Le second 21 dit « J'ai dit à Dieu ma reconnaissance. » Ou le Semeur « J'exprime à Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. » Donc c'est intéressant. Parce que il y a quelque chose de très positif. Je vais revenir à ça tout à l'heure, mais on a une réunion de prière tout à l'heure, c'est intéressant d'y penser. Parfois, quand on prie, on ne fait que demander, alors qu'il est aussi important de remercier le Seigneur pour tout. On va prier pour les absents, est-ce qu'on va remercier Dieu pour les présents, ceux qui sont là. C'est aussi important, parce que nous sommes là. Et donc, c'est bien aussi de rendre grâce. Ensuite, verset 5, il dit « Il manifeste sa joie au sujet de vous tous. » Et encore là, je vais revenir à cela, mais pour le moment, on parle des relations d'affection entre Paul et les chrétiens. « Je manifeste ma joie, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de ces chrétiens, en raison de ces chrétiens à Philippe. » Troisième chose, verset 7, « Je vous porte dans mon cœur. » Où le Semeur dit « Vous occupez une place particulière dans mon cœur. » Donc, ces chrétiens-là, il y avait quelque chose qui les liait à Paul de façon particulière. Donc, « Je vous porte dans mon cœur. » Et le verset 8, « Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » C'est très fort. Un peu comme Jésus a de la tendresse et chérit ses enfants, Paul peut dire « Dieu m'est témoin que vous chérissez avec la tendresse de Jésus-Christ. » C'est fort. Quatre choses en six versets. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, quelque part, c'est un modèle, un exemple pour nous, en tant qu'Église. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le relationnel, c'est pas la première fois que je le dis, vous connaissez, le relationnel est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'une église. Bien sûr, la relation avec Dieu et la relation avec les autres. Quand nous sommes réconcilié avec Dieu, on a maintenant une relation avec lui, et connaître Dieu, c'est la vie éternelle, selon Jean 17, mais aussi on commence une relation avec les frères et sœurs, puisqu'on est dans la même colonie, pour reprendre ce vocabulaire. On cherche à avoir des relations de vérité et d'honnêteté. On n'est pas utopique, parce qu'on sait que les autres ne sont pas exactement comme nous, mais c'est une réalité de dire le Seigneur met d'un véritable amour entre nous. Je vais faire une petite parenthèse, trois fois dans les écrits de Jean. Jean 13, 34 et 35, je cite tellement souvent que j'espère que vous connaissez. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour des uns pour les autres. » Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ensuite, dans la première épître de Jean, chapitre 4, et le verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean le dit deux fois d'ailleurs, parce qu'il dit déjà dans Jean 1, personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Et cette fois-ci, personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ce qui fait que quand Jésus est invisible pour nos contemporains, nous ne sommes pas invisibles. Donc, quand il voit l'amour entre nous, il commence à voir l'amour de Dieu, parce que c'est à cause de Dieu que nous avons l'amour les uns pour les autres. Donc, c'est encore très, très, très fort. Et puis, dans Jean 17, donc, la grande, on appelle la prière sacerdotale de Jésus, la prière pour ses disciples et pour ceux qui croiront en lui par leur témoignage, il dit au verset 20 et 21, « Ce n'est pas pour eux seulement, donc pour les douze que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et je pense que là où ça touche les gens, surtout, c'est de le voir dans la réalité de relation entre des personnes physiques. Ce n'est pas simplement l'unité de l'Église de façon un peu abstraite, mais c'est vraiment là où, au ras des pâquerettes, comme les Américains disent, là où le caoutchouc touche le macadam. Donc, c'est au ras des pâquerettes, c'est cet amour entre des personnes très différentes les uns des autres, mais parce que nous sommes chrétiens, on a quelque chose en commun. Et ce n'est pas simplement une illusion, c'est une vérité. Donc voilà, je fais une petite parenthèse parce que pour moi, cette relation entre Paul et les Philippiens est un modèle pour nous. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on en parle dans cet épître aux Philippiens. Mais revenons quand même à notre texte. Et ayant vu d'abord cette relation entre Paul et les Philippiens, j'aimerais mettre le doigt sur trois idées à retenir dans ce texte, sachant que le fond, c'est cette affection de Paul pour les Philippiens, mais ça passe par trois choses. La première chose, donc je reviens à ce verset 5 qui dit « qui manifeste sa joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Alors, il dit qu'il rend grâce et qu'il prie, et ce qu'il demande dans la prière, c'est à partir du verset 9, donc on le verra la prochaine fois que je prendrai la parole dans 15 jours. Donc on va voir la prière. Mais en attendant, retenons donc ce mot, la joie. Cette joie simple qu'il a dans son cœur, qui me semble quelque part tout un signe du chrétien. Je me demande dans quelle mesure les gens sont joyeux aujourd'hui. je me pose la question pour moi. Être joyeux, tout simplement. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'avais l'impression, par exemple, quand j'étais enfant, mais bon, ça c'est au siècle dernier, hein, que parfois je me promenais dans la rue et on entendait quelqu'un siffler tout simplement. On n'entend plus tellement maintenant. Moi, je pense. Mais nous, on peut être joyeux. Et je pense que c'est bien d'être joyeux. Et quelle est la raison particulière de sa joie? Donc, il y a une raison ici, il y a d'autres raisons, certainement beaucoup de raisons d'être joyeux, mais la raison qu'il donne ici, c'est qu'il est joyeux à cause de la part que les Philippiens prennent à l'évangile. Ce mot, la part qu'ils prennent, c'est le mot koinonia, qui est souvent traduit communion fraternelle. Mais je pense que peut-être on serait mieux avisé des fois de l'appeler solidarité fraternelle, parce que ici, en l'occurrence, et on va le voir au chapitre 4 des Philippiens, que Paul leur dit, vous étiez les seuls qui m'ont envoyé à plusieurs reprises des dons pour que je puisse exercer mon ministère. Donc ça, c'est au chapitre 4 et le verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Et il avait déjà envoyé donc de l'argent à Thessalonique, quand Paul était là. Donc, c'était la joie de cette solidarité entre chrétiens, la joie de donner quelque part. Ça me rappelle toujours un très cher ami et sa femme qui m'ont expliqué il y a bien des années comment ils donnent. Donc, ils avaient demandé à la banque, ils avaient un deuxième compte, et donc au premier du mois, il y avait un virement d'un certain pourcentage qu'ils voulaient donner pour le Seigneur qui était viré sur le deuxième compte. Elle dit, c'était automatique. Et après, on n'avait plus que le plaisir de savoir à qui on allait le donner. C'était avec joie, en quelque sorte, qu'ils ont donné. Mais il n'y a pas que cette joie-là. Hein, donc, mais c'était certainement un peu dans la tête de Paul quand il parle de cette joie. J'insiste un peu parce que j'ai fait une étude très rapide. J'ai pensé le faire pour ma présidence la semaine prochaine, mais finalement j'y ai renoncé, de regarder le mot la joie dans le Nouveau Testament. Moi, il y en avait 80. Donc je me dis, le culte risque d'être un peu long si je passe en revue tous ces versets. 80 fois, la joie. Et ici même, dans les Philippiens, le mot réjouissez-vous. Chapitre 1, verset 18. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Hein? Facile à retenir, Philippiens 4, 4, le verset tout-terrain. 4, 4. Bon. Vous avez compris. Se réjouir à tout moment, c'est vraiment une caractéristique des chrétiens. Et comme je dis tout à l'heure, de prier. Oui, il faut intercéder. Il y a des situations terribles dans le monde, mais aussi de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Et deuxième chose, je me dis, est-ce que l'on veut ressembler à ses collègues, à ses voisins et ses amis qui, pour meubler la conversation, ne trouvent qu'à se plaindre en fait de plein de choses? Je le remarque dans l'ascenseur chez nous, on est au 16e étage. Et qu'est-ce qui se passe? La première chose quand on lit conversation avec quelqu'un, c'est toujours pour se plaindre. Ou il pleut aujourd'hui, ou il fait froid, ou je ne sais pas, ou le. Il y a toujours cette notion de se plaindre plutôt que d'être joyeux. Et je vous l'ai dit, je me souviens quand je faisais une autre étude, donc je rappelle simplement ce que j'ai dit, que le contraire de la joie n'est pas la tristesse. Parce qu'on peut être joyeux et triste en même temps. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, hein, c'est dans dans Romains 12. Le contraire de la joie, c'est se plaindre. Parce que là, on peut être joyeux et triste en même temps, mais je ne pense pas qu'on puisse être joyeux et se plaindre en même temps. Donc voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, la première chose à retenir, c'est cette notion de joie qui va traverser toute cette lettre aux Philippiens. Deuxième chose, que Dieu est à l'œuvre dans la vie des chrétiens. Au verset 6, il y a ce verset bien connu, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est marrant. Mercredi soir, dans Marc, quel était le dernier verset qu'on a vu ensemble, pour ceux qui étaient là? Le verset qui disait « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et quelqu'un a posé la question « Est-ce qu'on va persévérer ?» Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on va persévérer? La persévérance des saints, la persévérance des saints, c'est le mot un peu technique en théologie pour dire que l'on va persévérer. On va rester fidèle. Ça ne veut pas dire que l'on doit rester passif. On doit aussi prier, résister à la tentation, se réunir pour l'encouragement mutuel, prier les uns pour les autres, lire la parole, ne pas se mettre en situation de tentation. Wow, il y a la sagesse de notre côté. Mais, en même temps, il y a cette promesse ici que Dieu va nous garder et il veut, et c'est la suite des Philippiens qui va le montrer, il veut parfaire en nous ce qu'il a commencé. Si on est encore là, si on s'est réveillé ce matin et on est encore chrétien, c'est parce que le Seigneur nous a gardés et il va nous garder. C'est une grande promesse. Et la troisième chose dans ce texte, c'est le verset 7 où Paul dit que les Philippiens participent à la même grâce que moi. Bien sûr, là, au premier niveau, ça veut dire le salut. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, Éphésiens chapitre 2. Mais dans le contexte, c'est une deuxième grâce dont il est question, la grâce de, comme il dit, que ce soit dans ses chaînes, parce que Paul était en prison, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, que vous participez à la même grâce que moi. C'est aussi la grâce de servir le Seigneur, la grâce d'être sauvé, mais la grâce de servir. Écoutez bien ce que Paul a dit à Timothée, hein, parce que c'est les deux auteurs de cette lettre. Timothée 1. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Dans le contexte de 1 Timothée, c'est l'évangélisation, ce qui veut dire parler, faire connaître autour de nous la bonne nouvelle. Et ici, cette grâce, Paul dit en quelque sorte qu'il partage même ses chaînes, parce qu'il prie pour lui, c'est comme s'ils étaient un petit peu prisonniers, ils étaient identifiés à Paul. Aussi dans la défense de l'évangile. Ce mot défense, c'est apologia, qui nous donne le mot apologétique, donc qui veut dire toutes les raisons de croire. Donc ils essaient d'expliquer la raison de l'espérance qui était en eux, 1 Pierre 3. Et la confirmation ou l'affermissement de l'évangile. D'expliquer l'évangile, de le vivre, d'en parler, de le communiquer. Ce qui veut dire que, au fond, donc je termine donc avec cette pensée, les chrétiens qui forment une petite colonie de Dieu sur la terre ne se contentent pas, en quelque sorte, de dire « on est la petite colonie de Dieu sur la terre », ils veulent que cette colonie s'agrandisse. Ils veulent que d'autres personnes puissent être des réfugiés du monde, je parle de l'actualité, pour venir dans cette colonie. Et cette colonie-là accueille tous les réfugiés du monde. Là, il n'y a pas de problème de passeport, etc. Cette colonie accueille. Donc, on voudrait que la colonie s'agrandisse en accueillant les nouveaux convertis et que la colonie puisse même influencer l'environnement autour d'eux, que ce soit Philippe ou Paris ou 17e, là où les chrétiens se trouvent. Donc, voilà quelques réflexions sur la suite de cette lettre. On est toujours dans l'introduction, mais en fait, j'aimerais qu'on chante un chant qu'on n'a pas mis encore sur le PowerPoint. C'est le J'aime 1, 244. Ô Jésus, tu nous appelles. Donc, pour ceux qui me connaissent, savent combien j'aime les histoires des frères Moraves. Et donc, c'est un chant des frères Moraves. Et les paroles sont très fortes. Et je trouve que les paroles de ce chant sont particulièrement pertinentes par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre dans cette introduction de cette lettre aux Philippiens.